Chapitre 24 Le père des Cancoël. En quittant le baron, Contenson alla tranquillement de la rue Saint-Lazare à la rue Saint-Honoré jusqu'au café David. Il y regarda par les carreaux et aperçut un vieillard connu là sous le nom du père Cancoël. Le café David, situé rue de la Monnaie, au coin de la rue Saint-Honoré, a joui pendant les 30 premières années de ce siècle d'une sorte de célébrité, circonscrite d'ailleurs au quartier dit des Bourdonnais. Là se réunissaient les vieux négociants retirés ou les gros commerçants encore en exercice. Les Camusot, les Lebas, les Pirot, les Popinot, quelques propriétaires comme le petit père Molineux. On y voyait de temps en temps le vieux père Guillaume, qui venait de la rue du Colombier. On y parlait politique entre soi, mais prudemment, car l'opinion du café David était le libéralisme. On y racontait les cancans du quartier, tant les hommes éprouvent le besoin de se moquer les uns des autres. Ce café, comme tous les cafés d'ailleurs, avait son personnage original dans ce père Cancoël qui y venait depuis l'année 1811 et qui paraissait être si parfaitement en harmonie avec les gens probes réunis là que personne ne se gênait pour parler politique en sa présence. Quelquefois, ce bonhomme, dont la simplicité fournissait beaucoup de plaisanteries aux habitués, avait disparu pour un ou deux mois. Mais ses absences, toujours attribuées à ses infirmités ou à sa vieillesse, car il parut, dès 1811, avoir passé l'âge de 60 ans, n'étonnaient jamais personne. « Qu'est donc devenu le père Cancoël ? » disait-on à la dame du comptoir. « J'ai dans l'idée, répondait-elle, qu'un beau jour nous apprendrons sa mort par les petites affiches. » Le père Cancoël donnait dans sa prononciation un perpétuel certificat de son origine. Il disait une est statue, est spéciale, le peuple, et tur pour turc. Son nom était celui d'un petit bien appelé les Cancoël, mot qui signifie hanneton dans quelques provinces, et situé dans le département de Vaucluse, d'où il était venu. On avait fini par dire Cancoël au lieu de des Cancoël, sans que le bonhomme s'en fâchât. La noblesse lui semblait morte en 1793. D'ailleurs, le fief des Cancoël ne lui appartenait pas. Il était cadet d'une branche cadette. Aujourd'hui, la mise du père Cancoël semblerait étrange. Mais, de 1811 à 1820, elle n'étonnait personne. Ce vieillard portait des souliers à boucles en acier à facettes. Des bas de soie à raies circulaires alternativement blanches et bleues. Une culotte en pou de soie à boucles ovales pareilles à celles des souliers, quant à la façon. Un gilet blanc à broderie, un vieil habit de drap verdâtre marron à boutons de métal et une chemise à jabot plissé dormant complétaient ce costume. À moitié du jabot brillait un médaillon en or où se voyait, sous verre, un petit temple en cheveux, une de ces adorables petitesses de sentiment qui rassurent les hommes, tout comme un épouvantail effraie les moineaux. La plupart des hommes, comme les animaux, s'effraient et se rassurent avec des riens. La culotte du père Cancoël se soutenait par une boucle qui, selon la mode du dernier siècle, la serrait au-dessus de l'abdomen. De la ceinture pendaient parallèlement deux chaînes d'acier, composées de plusieurs chaînettes et terminées par un paquet de breloques. Sa cravate blanche était tenue par derrière, au moyen d'une petite boucle en or. Enfin, sa tête neigeuse et poudrée se parait encore en 1816 du tricorne municipal que portait aussi M. Tri, président du tribunal. Ce chapeau, si cher au vieillard, le père Cancoël l'avait remplacé depuis peu. Le bonhomme crut devoir ce sacrifice à son temps. Par cet ignoble chapeau rond contre lequel personne n'ose réagir. Une petite queue, serrée dans un ruban, décrivait dans le dos de l'habit une trace circulaire, où la crasse disparaissait sous une fine tombée de poudre. En vous arrêtant aux traits distinctifs du visage, un nez plein de gibbosité, rouge et digne de figurer dans un plat de truffes, vous eussiez supposé un caractère facile, niais et débonnaire, à cet honnête vieillard, essentiellement gobe-mouche, et vous en eussiez été la dupe, comme tout le café David, où jamais personne n'avait examiné le front observateur, la bouche sardonique et les yeux froids de ce vieillard dodeliné de vices, calme comme un Vitellius, dont le ventre impérial reparaissait, pour ainsi dire, palingénésiquement. En 1816, un jeune commis-voyageur nommé Gaudissart, habitué du café David, se grisa de 11 heures à minuit avec un officier à demi-solde. Il eut l'imprudence de parler d'une conspiration ourdie contre les Bourbons, assez sérieuse et près d'éclater. On ne voyait plus dans le café que le père Canquel qui semblait endormi, deux garçons qui sommeillaient et la dame du comptoir. Dans les 24 heures, Gaudissart fut arrêté. La conspiration était découverte. Deux hommes périrent sur l'échafaud. Ni Gaudissart, ni personne ne soupçonna jamais le brave père Canquel d'avoir éventé la mèche. On renvoya les garçons, on s'observa pendant un an, et l'on s'effraya de la police, de concert avec le père Canquel, qui parlait de déserter le café David, tant il avait horreur de la police. Contenson entra dans le café, demanda un petit verre d'eau-de-vie, ne regarda pas le père Canquel occupé à lire les journaux. Seulement, quand il eut lampé son verre d'eau-de-vie, il prit la pièce d'or du baron et appela le garçon en frappant 3 coups secs sur la table. La dame du comptoir et le garçon examinèrent la pièce d'or avec un soin très injurieux pour Contenson. Mais leur défiance était autorisée par l'étonnement que causait à tous les habitués l'aspect de Contenson. « Cet or est-il le produit d'un vol ou d'un assassinat ?» Telle était la pensée de quelques esprits forts et clairvoyants qui regardaient Contenson par-dessous leurs lunettes tout en ayant l'air de lire leur journal. Contenson, qui voyait tout et ne s'étonnait jamais de rien, s'essuya dédaigneusement les lèvres avec un foulard où il n'y avait que 3 reprises, reçut le reste de sa monnaie, empocha tous les gros sous dans son gousset dont la doublure, jadis blanche, était aussi noire que le drap du pantalon, et n'en laissa pas un seul au garçon. « Quel gibier de potence !» dit le père Canquel à M. Pillerault, son voisin. « Bah !» répondit à tout le café M. Camusot, qui seul n'avait pas montré le moindre étonnement. « C'est Contenson, le bras droit de Louchard, notre garde du commerce. C'est drôle, on peut être quelqu'un à pincer dans le quartier. » Un quart d'heure après, le bonhomme Canquel se leva, prit un parapluie et s'en alla tranquillement. « N'est-il pas nécessaire d'expliquer quel homme terrible et profond se cachait sous l'habit du père Canquel, de même que l'abbé Carlos recelait Vautrin ?» Ce méridional, né à Canquel, le seul domaine de sa famille, assez honorable d'ailleurs, avait nom Peyrade. Il appartenait en effet à la branche cadette de la maison de La Peyrade, une vieille mais pauvre famille du comtat, qui possède encore la petite terre de La Peyrade. Il était venu, lui, 7e enfant, à pied à Paris, avec 2 écus de 6 livres dans sa poche, en 1772, à l'âge de 17 ans, poussé par les vices d'un tempérament fougueux, par la brutale envie de parvenir qui attire tant de méridionaux dans la capitale, quand ils ont compris que la maison paternelle ne pourra jamais fournir les rentes de leur passion. On comprendra toute la jeunesse de Peyrade en disant qu'en 1782, il était le confident, le héros de la lieutenance générale de police, où il fut très estimé par messieurs Lenoir et d'Albert, les 2 derniers lieutenants généraux. La Révolution n'eut pas de police. Elle n'en avait pas besoin. l'espionnage, alors assez général, s'appela civisme. Le directoire, gouvernement un peu plus régulier que celui du comité de salut public, fut obligé de reconstituer une police, et le premier consul en acheva la création par la préfecture de police et par le ministère de la police générale. Peyrade, l'homme des traditions, créa le personnel de concert avec un homme appelé Corentin, beaucoup plus fort que Peyrade d'ailleurs, quoique plus jeune, et qui ne fut un homme de génie que dans les souterrains de la police. En 1808, les immenses services que rendit Peyrade furent récompensés par sa nomination au poste éminent de commissaire général de police à Anvers. Dans la pensée de Napoléon, cette espèce de préfecture de police équivalait à un ministère de la police chargé de surveiller la Hollande. Au retour de la campagne de 1809, Peyrade fut enlevé d'Anvers par un ordre du cabinet de l'empereur, amené en poste à Paris entre deux gendarmes et jeté à la force. Deux mois après, il sortit de prison, cautionné par son ami Corentin, après avoir toutefois subi, chez le préfet de police, trois interrogatoires de chacun 6 heures. Peyrade devait-il sa disgrâce à l'activité miraculeuse avec laquelle il avait secondé Fouché dans la défense des côtes de la France, attaqué par ce qu'on a, dans le temps, nommé l'expédition de Walcheren et dans laquelle le duc d'Otrante déploya des capacités dont s'effraya l'empereur? Ce fut probable dans le temps pour Fouché. Mais aujourd'hui, que tout le monde sait ce qui se passa dans ce temps au Conseil des ministres, convoqué par Cambacérès, c'est une certitude. Tous foudroyés par la nouvelle de la tentative de l'Angleterre, qui rendait à Napoléon l'expédition de Boulogne, et surpris sans le maître, alors retranché dans l'île de Lobau, où l'Europe le croyait perdu, les ministres ne savaient quel parti prendre. L'opinion générale fut d'expédier un courrier à l'empereur. Mais Fouché seul osa tracer le plan de campagne, qu'il mit d'ailleurs à exécution. « Agissez comme vous voudrez, » lui dit Cambacérès, « mais moi, qui tiens à ma tête, j'expédie un rapport à l'empereur. On sait quel absurde prétexte prit l'empereur, à son retour, en plein conseil d'État, pour disgracier son ministre et le punir d'avoir sauvé la France sans lui. Depuis ce jour, l'empereur doubla l'inimitié du prince de Talleyrand de celle du duc d'Otrante, les deux seuls grands politiques dus à la Révolution, et qui peut-être eussent sauvé Napoléon en 1813. On prit, pour mettre Peyrade à l'écart, le vulgaire prétexte de concussion. Il avait favorisé la contrebande en partageant quelques profits avec le haut commerce. Ce traitement était rude pour un homme qui devait le bâton de maréchal du commissariat général à de grands services rendus. Cet homme, vieilli dans la pratique des affaires, possédait les secrets de tous les gouvernements depuis l'an 1775, époque de son entrée à la lieutenance générale de police. L'empereur, qui se croyait assez fort pour créer des hommes à son usage, ne tint aucun compte des représentations qui lui furent faites plus tard en faveur d'un homme considéré comme un des plus sûrs, des plus habiles et des plus fins de ces génies inconnus, chargé de veiller à la sûreté des États. Peyrade fut d'autant plus cruellement atteint que, libertin et gourmand, il se trouvait relativement aux femmes dans la situation d'un pâtissier qui aimerait les friandises. Ses habitudes étaient devenues chez lui la nature même. Il ne pouvait plus se passer de bien dîner, de jouer, de mener enfin cette vie de grand seigneur sans faste à laquelle s'adonnent tous les gens de facultés puissantes et qui se sont fait un besoin de distractions exorbitantes. Puis il avait jusqu'alors grandement vécu, sans jamais être tenu à représentation, mangeant à même, car on ne comptait jamais ni avec lui, ni avec Corentin, son ami. cyniquement spirituel. Il aimait d'ailleurs son état. Il était philosophe. Enfin, un espion, à quelque étage qu'il soit dans la machine de la police, ne peut pas, plus qu'un forçat, revenir à une profession dite honnête ou libérale. Une fois marqué, une fois immatriculé, les espions et les condamnés ont pris, comme les diacres, un caractère indélébile. Il est des êtres auxquels l'état social imprime des destinations fatales. Pour son malheur, Peyrade s'était amouraché d'une jolie petite fille, un enfant qu'il avait la certitude d'avoir eu lui-même d'une actrice célèbre, à laquelle il rendit un service, et qui en fut reconnaissante pendant 3 mois. Peyrade, qui fit revenir son enfant d'Anvers, se vit donc sans ressources dans Paris, avec un secours annuel de 1200 francs accordé par la préfecture de police au vieil élève de Lenoir. Il se logea rue des Moineaux, au 4e, dans un petit appartement de 5 pièces pour 250 francs.